France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, les dieux pouvaient aussi rôder non pas sur, mais au-dessus de la terre. Quand il prenait la forme changeante, instable, parfois radieuse et parfois terrifiante, de nuages. Il flottait dans les airs et il fallait se méfier. Ces divinités nuages faisaient la pluie et le beau temps et elles changeaient d'attitude au moment où on s'y attendait le moins. Aristophane, le poète comique athénien, a su capter ces êtres bizarres, ces nuées, ces déesses nuages. Il en a fait le cœur chantant et dansant, tantôt bienveillant et tantôt cruel, de sa comédie « Les nuées ». Nous avons déjà suivi ces déesses surprenantes et nous avons vu comment Socrate, grand maître des choses du ciel, sait leur parler et les convaincre de l'aider. Ces nuées fabuleuses reviennent aujourd'hui, en dernière semaine. Grâce à elles, nous continuerons notre feuilleton Socrate avec l'épisode « Socrate ». Brûle-t-il ?
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Nuées jamais taries, surgissons au regard, vapeurs faciles à mouvoir.
Quittant notre père océan au bruit retentissant des hautes montagnes, gagnons les cimes chevelues.
Mais dissipons la brume pluvieuse qui voile nos formes immortelles et d'un regard qui voit de loin, contemplons la terre.
Jusqu'à présent, là où nous en étions, les nuées, divinités toutes puissantes, se sont montrées bienveillantes. Elles ont pris la décision d'aider le héros de la pièce dans ses projets, même si ce sont des projets sombres et malhonnêtes. Ce héros s'appelle Strepsiade. C'est un paysan vivant à Athènes. Il est criblé de dettes. Il a un fils dénommé Phidippide qui ne jure que par les chevaux de course. Et son père Strepsiade, cédant à ses caprices, lui en a acheté. Pour cela, Strepsiade s'est endetté. Et maintenant, il faut payer. Mais s'il rembourse tout ce qu'il doit, il est ruiné. Strepsiade a appris qu'un philosophe extraordinaire, un dénommé Socrate, tient une école tout près de chez lui. Socrate, non seulement est un grand savant qui connaît tous les secrets de la nature, du ciel et des profondeurs de la terre, qui sait quelle distance exactement une puce peut franchir en un saut, mais surtout, ce Socrate est tellement fort dans l'art du langage qu'il peut faire triompher n'importe quel discours, que ce discours soit vrai ou faux, juste ou injuste. Socrate sait en parlant faire exister ce qui n'existe pas et disparaître ce qui existe.
Jean-Claude Carrière, helléniste.
Accompagnant la naissance de la démocratie athénienne, il y a une nouvelle école de penseurs qui sont, vous le savez, les sophistes. Alors les sophistes, la base de leur pensée, c'est l'idée que si les dieux existent, on ne peut pas les atteindre ou les comprendre, parce que la vie est trop courte, et que par conséquent, la vérité, c'est ce qui existe pour nous. Donc les dieux sont d'une certaine façon mis entre parenthèses. Le paradoxe étant que Socrate va devenir pour Aristophane le type même des sophistes, et que dans les nuées, on peut dire qu'Aristophane a dirigé contre les sophistes la plus virulente des comédies.
Strepsiade se dit que si on suit l'enseignement de ce Socrate, on peut apprendre à faire sauter ses dettes en démontrant à ses créditeurs qu'elles n'existent pas. Socrate, qui voit le profit qu'il peut tirer d'un tel élève peu cultivé et balourd, accepte de former Strepsiade. Pour rendre son enseignement impressionnant et efficace, il appelle ses grandes divinités inspiratrices et protectrices, les nuées, qui sont les seules divinités que Socrate reconnaît. Les autres, Zeus et tout l'Olympe, c'est du vent. Il n'y a comme Dieu que les nuages et leurs tourbillons.
Elles seules sont déesses. Tout le reste n'est que sornette.
Mais Zeus, selon vous, voyons au nom de la terre, Zeus, l'Olympien, n'est pas Dieu ?
Qui ça, Zeus ? Trêve de baliverne, il n'existe même pas, Zeus.
Que dis-tu ? Mais qui fait pleuvoir ?
Elle, sans doute, les nuées. Et je t'en donnerai des preuves formelles.
Strepsiade entre dans l'école de Socrate. Et évidemment, il rate son apprentissage. Il ne peut rien apprendre et se fait renvoyer. Strepsiade finit par convaincre son jeune fils, Phidippide, de suivre les cours à sa place. Le père choisit le programme d'enseignement. Il ne s'intéresse pas à la physique, à la science de la nature, mais seulement au discours injuste qui peut faire triompher l'injustice. Mais encore faut-il que ce discours injuste fasse preuve de sa puissance, qu'il montre sa capacité à triompher de son adversaire, le discours juste. On assiste alors à un match violent, serré, entre les deux discours, le juste et l'injuste. Le discours juste, tel qu'il est présenté dans la pièce, c'est la tradition. Le bon monde convenu, où les jeunes gens étaient obéissants, dociles, pour la satisfaction des vieux, c'est plutôt glauque. Le discours qui est dit injuste, c'est la nouveauté, l'audace, le plaisir, le dérèglement. À la fin du match, le discours injuste triomphe. Il peut montrer au discours traditionnel, au discours juste, qui se veut sage, qu'Athènes est en réalité une ville de débauchés. Finalement, le discours juste ne veut pas manquer ça. Il veut être de la partie, il s'avoue vaincu. Le père confie donc son fils au discours injuste. Il lui apprendra à supprimer ses dettes. De manière tout à fait inattendue, le cœur des nuées lance alors un avertissement au père.
Mais toi, je pense que tu t'en repentiras.
Le cœur est devenu menaçant. On ne sait pas encore ce que ça veut dire. Jusque-là, il avait soutenu Strepsiade. Le cœur en profite pour avertir et menacer aussi le public. Les spectateurs devront trancher après le spectacle. Quelle est la meilleure comédie dans ce festival de théâtre ? Les nuées ? Ou celle de l'un des deux rivaux d'Aristophane. Des juges, issus du public, devront classer les trois comédies mises en compétition ce jour-là. Les nuées, ces grandes divinités météorologiques, rappellent leur pouvoir. Les juges ont intérêt à les respecter, à voter pour elles, pour la comédie d'Aristophane.
Les avantages dont bénéficieront les juges, s'ils apportent en toute justice leur soutien à notre cœur, nous allons vous les exposer. Pour commencer, si vous voulez défricher vos champs la saison venue, nous pleuverons sur vous en priorité, et pour les autres seulement, plus tard. Ensuite, nous protégerons les fruits que portent vos vignes, de façon à ne les accabler ni de la sécheresse, ni d'une pluie trop abondante. Mais si quelqu'un nous outrage, un simple mortel face à des déesses, qu'il fasse bien attention à tous les malheurs qui lui arriveront de notre fée. Il ne pourra plus tirer de sa terre ni vin, ni rien d'autre. Lorsque ses oliviers et ses vignes bourgeonneront, ils seront hachés menus, tant nous les frapperons des projectiles de nos fronts.
De la belle corruption météorologique. Mais la menace ne va pas prendre. La comédie d'Aristophane sera classée troisième et dernière. Nous en étions là. Le père ne se rend compte de rien. Mais ça va mal tourner pour lui. Et ça va aussi très mal tourner pour Socrate, qui va tout perdre.
Des mots pour parler de ces mots, pour parler fort, pour parler haut. Des mots prononcés pour l'histoire, des mots sortis de la mémoire. Des mots charmants, des mots d'enfant, des mots pour papa et maman. Des mots nouveaux au dictionnaire, des mots en langues étrangères. Des mots écrits, des petits mots, des mots crachés qui font gros mots. Des mots, toujours des mots. Il faudrait se méfier des mots. des mots pour jouer avec les mots, des mots riches et des mots idiots, des mots pour mentir sans vergogne, des mots tendres et des mots qui cognent, des mots insensés ou abscons, des mots savants ou des mots cons, des mots chuchotés à la messe, et des mots pour parler de fesses, des mots pour aider son prochain, des mots pour vendre son voisin, des mots, toujours des mots, il faudrait se méfier des mots. Des mots pour rassurer parfois, des mots semant le désarroi, des mots chantants, des mots intimes, des mots cruels qui poussent au crime, des mots snobs et des mots d'argot, des mots tranchants comme un couteau, des mots auxquels le cœur succombe, des mots prononcés sur les tombes, des mots vides et des mots ronflants, des mots qui détruisent les gens, des mots, toujours des mots, il faudrait se méfier des mots perfides et sentencieux, des mots pour s'adresser à Dieu, des mots qui restent symboliques, des mots pour les nuits érotiques, des mots qu'on voudrait oublier, des mots très durs à prononcer, des mots qui vous envoient vous battre, des mots prestigieux de théâtre, des mots simples et des mots d'amour, des mots rimant avec toujours, des mots, toujours des mots, il faudrait se méfier des mots.
Pierre Judet de Lacombe raconte comment, selon Aristophane, Socrate peut faire d'un jeune ignorant un dialecticien retors.
Le fils de Strepsiade suit sa formation dans l'école des savants. Et ça semble marcher. Socrate, le maître de l'école, est ravi. Il peut rassurer le père en disant que son fils est désormais compétent. Socrate peut donc être payé pour son enseignement.
Ravi de te revoir, Strepsiade.
À toi de même, mais avant tout, prends cet argent. Il convient de donner une marque de son estime au maître. Et mon fils, dis-moi s'il a appris ce fameux raisonnement, le garçon que tu as admis récemment chez toi.
Il l'a si bien appris.
Merci, ô tromperie, reine du monde.
Que tu pourras gagner tous les procès que tu voudras.
Même s'il y avait des témoins de mes emprunts.
Encore bien mieux, même quand il y en aurait 1000.
Enfin apparaît le fils. Il est transformé. Il a la tête d'un bon élève, fraise et moulue de la grande école de Socrate. Il n'est plus le sportif costaud et naïf qui était fou de chevaux. Il a cet air dubitatif de ceux qui ne se laissent pas avoir. La finesse faussement désabusée et fourbe des bons élèves à qui on a appris à ne pas dire franchement ce qu'ils pensent.
You, you. Tout d'abord que je suis heureux de voir la mine que tu as. Ah oui, maintenant on voit du premier coup d'œil que tu es dénégatif et contradictif et qu'il est bien de chez nous ce « qu'est-ce que tu racontes, toi ?» qui fleurit sans phare sur tes lèvres. Et cet air de victime, quand tu es dans ton tort, même quand tu commets un délit, je connais ça. Il est bien là, dans tes yeux, le regard athénien. Allons. « Trouve maintenant le moyen de me sauver, puisque c'est toi qui as causé ma perte. »
Le fils, fort de son nouveau savoir, se propose de chasser les craintes de son père. Il commence par le rassurer sur le jour où il faudra payer les dettes et les intérêts. C'est tout proche, le dernier jour du mois lunaire. L'usage est de désigner ce jour de transition entre deux mois avec une expression double. On dit « le jour de l'ancienne et de la nouvelle lune » ou « jour de fin de mois, début de mois ». Le fils peut démontrer que ce jour n'existe pas. Il a bien appris sa logique et, affirme-t-il, il ne peut pas y avoir un tel jour, car une même chose ne peut pas être deux choses contradictoires à la fois. Une même femme, dit-il, ne peut être à la fois vieillarde et jeune fille. Il s'agit donc nécessairement de deux jours différents. Strepsiade est enchanté par une telle subtilité, par un raisonnement aussi inattendu. Ébloui par son fils, il se met à injurier les spectateurs qui, eux, n'ont jamais su avoir de telles idées.
« Mes pauvres amis, pourquoi restez-vous assis comme des abrutis ? Belle aubaine pour nous, les doctes, car vous n'êtes que des cailloux, des numéros de vrais moutons, un amoncellement de cruches. C'est pourquoi je dois, à ma gloire et à celle de mon fils ici présent, d'entonner une ode triomphale pour fêter nos succès. » Bienheureuse Strepsiade, tu es né habile, ô combien, et quel fils tu réchauffes dans ton sein. Voilà ce que diront de moi nos amis et nos pays, pleins d'envie à chacun des procès que tu gagneras grâce à ton éloquence. Mais avant toute chose, je veux t'emmener chez nous pour festoyer.
Le père offre à son fils un vrai repas de fête. Mais la réalité va vite se rappeler à eux, dans toute sa brutalité. Arrive un créancier qui avertit Strepsiade qu'il devra payer dans peu de temps, à la fin du mois lunaire. Strepsiade essaye de le tourner en ridicule avec cette histoire de lune qui ne peut être vieille et jeune en même temps. Ces histoires de jours simples ou doubles, de vieille lune qui ne peut pas aussi être nouvelle, laissent le créancier entièrement indifférent. Il rappelle à Strepsiade que s'il refuse de le rembourser, il devra comparaître en justice. Arrive un second créancier qui réclame son argent. Strepsiade lui oppose qu'il ne peut rendre son argent à un ignorant, à quelqu'un qui ignore tout des lois de la nature et qui ne sait même pas si la pluie que fait tomber Zeus est toujours ou non constituée de la même eau.
Dis-moi donc, selon toi, est-ce que Zeus pleut toujours une eau chaque fois nouvelle ? Ou est-ce que le soleil tire d'en bas la même eau par un va-et-vient ?
Le créancier répond qu'il n'en a rien à faire. Il comprend que Strepsiade ne remboursera pas le capital et il demande à toucher au moins les intérêts de la dette. Strepsiade fait comme s'il ne savait pas ce que signifie le mot « intérêt ».
Qu'est-ce que c'est que cet intérêt ? Quel genre d'animal ?
C'est pourtant clair. C'est mois après mois, jour après jour, encore et encore, l'augmentation de l'argent tout au long de l'écoulement du temps.
Strepsiade lui répond en invoquant un problème de physique maritime.
Belle parole ! Eh bien alors ? La mer est-elle plus étendue, selon toi, maintenant qu'auparavant ?
Mais non, pardi, elle est pareille, car il n'est pas dans l'ordre des choses qu'elle soit plus étendue.
En ce cas, mon pauvre ami, si elle n'augmente nullement, elle, malgré les fleuves qui se déversent en elle, comment peux-tu, toi, chercher à augmenter ton argent ?
Strepsiade a trouvé un argument contre l'enrichissement par la finance. L'argent ne doit pas produire de l'argent. De grands philosophes anciens comme Aristote seront d'accord avec lui. À bout d'arguments convaincants, Strepsiade chasse le créancier avec un aiguillon, comme on pique les chevaux.
Aïe !
On voit bien que toute la science acquise chez Socrate ne sert strictement à rien. Qu'à cela ne tienne, Strepsiade va retrouver son fils et continue à faire la fête avec lui. Mais c'est là que ça se gâte, violemment. La fête devient cauchemar. Le cœur dénué annonce la catastrophe qui va s'abattre sur Strepsiade, l'homme malhonnête qui ne veut pas payer ses dettes.
Voici ce que c'est que d'aimer les affaires louches. Ce vieillard-là, il les adore. Et du coup, il refuse de rendre les sommes qu'il a empruntées. Seulement aujourd'hui même, c'est certain, il va lui arriver quelque affaire qui plongera ce sophiste en punition de ses filouteries dans un malheur certain. Oui, je pense qu'il va avoir dans un instant ce qu'il cherchait depuis longtemps. Un fils terriblement habile à soutenir des affirmations contradictoires entre les causes justes qui réussira à triompher de tous ceux à qui il aura affaire, quitte à dire les pires horreurs. Mais peut-être finira-t-il par souhaiter que son fils devienne muet.
Le fils et le père venait de se réconcilier dans la joie familiale, dans un beau festin. Mais vite, une querelle surgit. Le père se met à hurler parce que son fils a commencé à le battre.
Ah, mes voisins, mes parents, mes pays, venez à mon secours à tout prix. On me bat, misère, pauvre de moi, ma tête, ma mâchoire. Scélérat, tu oses battre ton père ?
Affirmatif, mon père.
Espèce de scélérat, parricide, cambrioleur.
Redis-le-moi, rajoute-en. Cela me met en joie d'entendre tous ces vilains noms, tu sais.
Le fils ne se contente pas de taper son père. Il prétend avoir le droit de le faire en s'appuyant sur la formation intellectuelle qu'il a reçue grâce à son père. Le cœur dénué veut comprendre et demande aux deux adversaires de s'expliquer. Strepsiade, en premier, raconte. Tout vient d'un désaccord littéraire. Content de faire la fête en famille, Strepsiade demande à son fils de chanter pour lui en s'accompagnant d'une lyre. Un vieux poème d'un vieux poète, Simonide, qui a fait l'éloge de la nouvelle coiffure d'un athlète autrefois renommé. Le fils trouve ça complètement ringard. Le père lui demande alors de lui chanter de l'Échille, le vieux poète tragique mort depuis longtemps. Le fils explose. Échille n'est pour lui qu'un poète qui fait du bruit. Boursouflé, un creuseur d'abîmes sans fond avec ses mots qui se veulent sublimes. Pour montrer à son père l'art qu'il apprécie, le fils récite une tirade d'avant-garde, tirée d'une tragédie d'Euripide, l'auteur révolutionnaire. Cette tirade raconte une histoire mythologique où un frère couche avec sa sœur. Le père devient fou de rage, injurie son fils qui lui saute dessus et le roue de coups. Ne pas aimer Euripide mérite qu'on se fasse taper. Le cœur demande au fils de s'expliquer, de mobiliser toute sa science nouvelle pour démontrer qu'il a raison de vouloir cogner son père. Le fils relève le défi.
Je vais pouvoir, je pense, vous enseigner qu'il est juste de châtier son père.
Va donc faire du cheval, grand Dieu. Je préfère encore nourrir les chevaux d'un quadrige plutôt que de me faire écraser sous une grêle de coups.
Je reviens à ce que je disais quand tu m'as coupé la parole. Pour commencer, je vais te poser cette question. Quand j'étais petit, me battais-tu ?
Bien sûr que oui, par affection et sollicitude pour toi.
Alors dis-moi, n'est-il pas juste que moi aussi j'ai pour toi une égale affection et que je te batte ? Puisque battre les gens, c'est justement leur montrer de l'affection. Quelle raison y aurait-il en effet pour que ton dos soit dispensé des coups et pas le mien ? Je suis pourtant né libre moi aussi. Les enfants sont corrigés. Estimes-tu qu'un père ne doit pas être corrigé ? Tu diras, toi, que la loi permet d'agir ainsi avec un enfant. Mais je répondrai, moi, que les vieux retombent en enfance et qu'il est normal que les vieux soient plus corrigés que les jeunes dans la mesure où il est moins admissible qu'ils commettent des fautes.
Le fils appuie ses arguments sur une loi générale de la nature, commune aux humains et aux animaux.
Du reste, regarde les coqs et les autres animaux de ce genre, comme ils prennent leur revanche sur leur père. Or, quelle différence y a-t-il entre eux et nous, en dehors du fait qu'ils ne proposent pas de décret ?
Pour la première fois, Strepsiade trouve un argument contre son fils.
Eh bien alors, puisque tu veux imiter les coqs, pourquoi tu ne vas pas aussi chercher ta pitance dans le fumier et dormir sur un perchoir ?
Là, le fils semble un peu ébranlé. Il dit seulement que Socrate ne penserait pas comme ça. Puis le vieux Strepsiade dégaine un argument qu'il croit irréfutable. Il demande à son fils de renoncer à cogner son père, car sinon, le fils de son fils pourra trouver juste de cogner son père à lui. Et le fils de Strepsiade a la réplique. « Il se peut très bien, dit-il, qu'il n'ait jamais d'enfant. Tout doit donc se régler directement entre son père et lui, dans une relation d'équilibre. Et s'il ne donne pas tout de suite des coups à Strepsiade, pour venger les coups qu'il a reçus pendant son enfance, Strepsiade, qui n'aura jamais été puni, va pouvoir mourir en rigolant. Ce qui n'est pas juste quand même. On fait ce qu'on peut comme logique. Puis le fils ajoute une autre menace. Ce qu'il a dit de son père vaut aussi pour sa mère. Il peut démontrer qu'il est également juste de taper sur elle. Strepsiade est horrifié. Il se tourne vers le cœur des nuées, vers les déesses qui l'ont encouragé dans son entreprise, et il leur demande des comptes.
Tout cela, c'est par votre faute, nuée, que je l'ai subi, pour vous avoir confié toutes mes affaires.
Le cœur des nuées lui fait une réponse inattendue. En fait, ces nuées ont joué la comédie. Il ne fallait pas les croire. Elles ont fait semblant d'être du côté de Socrate. Elles voulaient en réalité donner une bonne leçon à Strepsiade, le malhonnête, de manière qu'il apprenne à respecter les dieux. Car, disent les nuées, il n'est pas vrai que les dieux n'existent pas, comme le prétend Socrate. Au contraire, les nuées sont à leur service, au service de la justice et de la morale.
Penses-tu, tu es le seul responsable de tes malheurs. Tu t'étais tourné vers des pratiques mauvaises.
Pourquoi donc ne me le disiez-vous pas à ce moment-là, au lieu de monter la tête à un pauvre paysan?
C'est ainsi que nous agissons chaque fois que nous devinons un amoureux des pratiques mauvaises, jusqu'à ce que nous le précipitions dans le malheur pour lui apprendre à redouter les dieux.
Ah, nuée, c'est bien méchant, mais c'est juste. C'est vrai que l'argent que j'avais emprunté, je ne devais pas refuser de le rendre.
Tout cela n'était donc que tromperie. Les nuées n'étaient pas celles qu'on croyait. C'est abyssal, confondant. Les nuées, si virevoltantes avec leurs tourbillons, leurs changements, jouent visiblement avec un grand plaisir de leur capacité à prendre n'importe quelle forme, n'importe quel aspect, à être ce qu'elles veulent, quand elles le veulent. Et elles le font pour faire rire le public, pendant un long spectacle vraiment spectaculaire, plein d'imprévus, de rebondissements. Elles affichent d'abord de la complicité pour les menteurs, les emberlificoteurs professionnels que sont les philosophes, ces savants qui ne parlent pas comme tout le monde et détruisent toutes les évidences. Les nuées se sont mises du côté du mensonge, de la tromperie. Et ce rapprochement avec Socrate, ironie, était de la tromperie. Elles ne le pensaient pas. Le trompeur ou apprenti trompeur qu'est Socrate a été trompé. Les nuées disent à la fin qu'elles sont pour la vérité, pour la justice, pour le respect des dieux, contre la tromperie. Mais leur vérité, elles l'affirment en trompant et en jouant. Elles font la comédie.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
It's a horror land. Destruction. Yeah.
Olivier de Lacombe évoque la colère incendiaire de Strepsiade, le trompeur trompé.
Strepsiade a tout perdu. Il sera condamné s'il ne rend pas l'argent emprunté, argent qu'il n'a pas. Il a perdu sa famille, son fils le méprise. Il pensait préserver sa petite maisonnée en recourant aux artifices de la science la plus moderne. Et il ne reste plus rien. Il a été malhonnête et il le paye. Socrate, quant à lui, est démasqué par les divinités célestes qu'il croyait maîtriser. Sa science ne sert à rien et il a menti sur le monde, les dieux, la société. Strepsiade décide de s'en prendre à Socrate, à son école. Strepsiade envoie un de ses esclaves avec une pioche sur le toit de l'école. Il lui demande d'y faire un grand trou. Puis, comme un guerrier héroïque, partant avec une échelle à l'assaut d'un rempart, une torche à la main, comme l'un des sept contre Thèbes, le fameux guerrier capané, Strepsiade monte à son tour sur le toit. Il tient une torche enflammée et il met le feu au bâtiment. Un disciple s'affole.
Mais l'homme, que fais-tu ?
Ce que je fais, c'est pourtant clair. Je ratiocine avec les poutres de la maison.
Socrate apparaît à une fenêtre, très inquiet.
Dis donc, toi, que fais-tu au juste sur le toit ?
J'aéroflâne et je considère le soleil.
Misère de misère, pauvre de moi. Je vais être asphyxié.
Quelle idée aviez-vous aussi d'outrager les dieux et de lorgner le siège de la lune ?
Tout le monde s'échappe de l'école en flammes. Socrate et ses disciples, poursuivis par Strepsiade et ses esclaves. Le chef du chœur des nuées dit à ses danseurs d'arrêter la représentation. Ça suffit, ils ont assez travaillé.
Laissez-vous mener vers la sortie. Notre chœur a bien assez dansé aujourd'hui.
Cette fin brutale d'une révolte contre Socrate et contre les savants en général, laisse un goût amer. Surtout quand on connaît la suite. Socrate, condamné à mort près de 30 ans après la représentation, et quand on sait qu'en fait le Socrate réel n'était pas du tout comme le Socrate qu'Aristophane a imaginé pour sa pièce. Il ne demandait pas de l'argent pour son enseignement. Il ne s'intéressait pas du tout à la cosmologie, au mouvement et à la nature des astres. Il ne disait pas que les dieux n'existent pas, mais respectait la religion. Il ne conseillait pas la tromperie, mais le doute systématique et l'examen rigoureux de ce qui passait dans la société pour des certitudes. On est loin du Socrate de la comédie, même si Aristophane a emprunté des traits au Socrate réel qu'il connaissait bien. Le non-conformisme total, l'humour, la finesse, le refus de l'élégance et une certaine arrogance. Le personnage, tel qu'il apparaissait tous les jours aux Athéniens, était déjà comique. Aristophane cherchait à faire rire. Et le Socrate qu'il connaissait, le vrai Socrate, l'aidait bien. Tant le vrai Socrate n'était pas dans la norme. Mais comme Aristophane lui-même, contre les normes. Ou plutôt, contre les gens bien installés, les moutons, les cruches, qui se gargarisaient avec les normes. Aristophane et Socrate le provocateur se ressemblaient beaucoup. Et Aristophane pouvait bien inventer des déesses nuées qui soient pour un temps amies de Socrate. Comme la comédie, comme Socrate, ces déesses nuages sont au-delà de toutes les idées épaisses, convenues, simplistes, balourdes, qui ne servent qu'à renforcer des pouvoirs établis, rigides et privilégiés. Mais Aristophane voyait dans la philosophie, dans la science en général, un pouvoir, un abus, une volonté de domination au moyen d'un langage professionnel, insaisissable, inattendu, surprenant, sous des apparences de rationalité, un langage toujours sûr de lui, quoi qu'il dise, un moyen radical et efficace de tromper la masse des gens. Et le pauvre Socrate s'est trouvé chez Aristophane, dans sa pièce, incarner cela. Pour Aristophane, dans sa comédie, il n'y a pas les bons et les mauvais. Les mauvais sophistes et philosophes face au bon sens populaire et inculte. Personne n'est positif dans cette pièce. Le discours soi-disant juste, qui est finalement vaincu par le discours injuste, n'est qu'un discours de nanti privilégié et libidineux. L'abruti de service, Strepsiade, qui finalement se trouve défendre les dieux et la famille, est foncièrement malhonnête. Le raffinement extrême du langage des philosophes. Leur volonté de s'élever haut, au-dessus du commun dans la contemplation du ciel, ne ressemble dans cette pièce que trop au banal et bas instinct d'un paysan qui veut se débarrasser du réel terre à terre et ne pas payer ses dettes, et d'un gamin gâté qui veut éliminer ses parents tout en vivant à leur crochet. Dans ce drame, rien ne tient, rien n'est sûr, fiable, ouvert et lumineux, sauf la comédie elle-même. La semaine prochaine, nous verrons un Socrate mal en point, Socrate condamné.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tessel. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker. Bonne journée sur France Inter.